Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. J'ai une heure pour vous montrer qu'il y a en France des idées, des projets et des gens qui les portent. C'est eux qui font notre richesse. Aujourd'hui, gros plan sur le whisky. Irlandais ou écossais, la bataille a toujours fait rage sur les origines. Nous, on a choisi de vous faire découvrir ceux qui le fabriquent ici, chez nous, dans l'Hexagone. Elle existe depuis 2011 seulement, mais elle fait déjà briller les couleurs de la French Fab, Forcy Power et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous voulez peut-être apprendre l'anglais en quelques exercices, une plateforme vous le propose, la solution c'est Streamglish, c'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, venez, on vous attend, venez nous rejoindre, vous avez la parole comme chaque jour ici sur Europe 1, on parle whisky aujourd'hui, Anissa.
Oui, venez poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin, vous ne connaissez pas le whisky français, vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Vous êtes amateur de whisky, venez nous dire ce que vous attendez d'un bon whisky. Hashtag Europe 1 sur les réseaux sociaux, 3921 pour le standard.
Alors, je vous l'ai dit, hein, le débat fait rage depuis qu'il a été inventé. Est-il irlandais ou écossais? On verra ce que nous disent nos invités. Pour les accueillir à mes côtés aujourd'hui, Benjamin Lévesque est là, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach qui a promis de ne pas goûter avant la fin de l'émission, c'est Sylvain Lambert de PwC. Bonjour Sylvain.
Bonjour Raphaël, j'ai rien promis du tout.
Un amateur de whisky.
Très grand amateur.
Le whisky, ce n'est pas à la base, c'est vrai, un produit de chez nous, ou plutôt ça ne l'était pas au départ, et pourtant vous allez voir que la France se l'est réapproprié plutôt de belle manière. Bonjour David Roussier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur
avec
Europe 1.
Plaisir.
Vous êtes le directeur général de la distillerie Varangueb, c'est comme ça qu'on dit.
C'est ça.
Qui produit le whisky Armorique avec un K à Lannion évidemment, distillerie créée en 1900, et pourtant Varangueb, c'est pas breton, c'est plutôt un nom du Nord. Au départ, c'est une famille du Nord qui vient s'installer en Bretagne et qui décide de faire du whisky?
Alors, pas du whisky à l'époque, mais effectivement, c'est une famille originaire du Nord, avec d'où les consonances flamandes, qui s'installe sur la côte de Granit Rose pour ouvrir une distillerie de liqueurs, avec un premier produit qui s'appelle l'élixir d'Armorique, qui était un petit peu dans la famille des chartreuses, des bénédictines, ce genre de choses.
Donc on travaillait le fruit.
On travaille surtout les plantes, les épices, et très rapidement, on a évolué vers les fruits, effectivement, avec le cassis, la fraise, le triple sec, toutes ces liqueurs un petit peu traditionnelles qu'on retrouvait dans toutes les régions de France.
Et puis votre famille arrive dans l'aventure, bien des années plus tard. Et je crois que c'est votre beau-père dans les années 80 qui se dit « Et si on faisait du whisky ?» Pourquoi ? Il a senti qu'il y avait une tendance naissante à faire des produits régionaux, à tout décliner. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ?
Alors, c'est effectivement mon beau-père, donc Gilles Lesourd, qui en 83 devait trouver des nouvelles solutions pour sauver la distillerie, puisqu'elle ne se portait pas très bien à cette époque. Et aidé du directeur commercial de l'époque, Bernard Lepalais, qui se sont dit « Pourquoi pas ?» lancer le premier whisky français. Il y avait deux principales raisons à ça. La première, c'est les racines celtes. Le whisky, c'est le spiritueux celte par excellence. Donc, on a jugé légitime de... S'il devait y en avoir en France, ça pouvait commencer en Bretagne. Et puis, la deuxième raison, qui est peut-être un peu moins connue, c'est que la France a toujours été le marché numéro un au monde pour la consommation de whisky. Donc, pour sauver la distillerie, c'était assez logique de se lancer sur un marché qui marchait bien.
Oui, alors effectivement, c'est le cas, hein, Benjamin. Les Français et le whisky, c'est, on peut le dire, presque une histoire d'amour.
Oui, parce qu'on fait partie du top 3 mondial des consommateurs de whisky. Alors, c'est surtout vrai depuis ces 20 dernières années. Hein. Je vais vous donner quelques chiffres. En 2000, on comptait 90 millions de bouteilles vendues en France contre 200 millions en 2017. On fait mieux que le champagne.
David Roussier, l'idée, c'était aussi de tenir la dragée haute, en quelque sorte, à la grande distribution à l'époque, avec justement ces produits terroirs face à des grandes marques.
Tout à fait. C'était un peu la réflexion qu'ils ont menée à l'époque, c'est de se dire que les distilleries régionales qui faisaient un petit peu les mêmes produits dans toutes les régions n'avaient plus vraiment de raison d'être à l'époque de la grande distribution. Par contre, la grande distribution était en demande de produits régionaux avec une vraie identité locale. Et donc, on s'est lancé dans le whisky, mais aussi dans le chouchen, dans l'eau de vie de cidre de Bretagne et dans le pommeau de Bretagne par la suite.
Oui, sauf que le whisky, aujourd'hui, c'est 70% de votre production.
C'est ça.
Et alors, c'est important parce que vous dites ancrage régional, ancrage local. Vous faites travailler le dernier tonnelier breton.
Oui, absolument, absolument.
Donc tout est vraiment quasiment breton. Il y a l'orge et le blé qui le sont aussi. Les fûts sont des fûts de quoi ?
Alors nous, on travaille avec des fûts, principalement, la grande majorité, c'est les mêmes fûts que utilisent les Écossais, les Irlandais, c'est des fûts de Bourbon, des fûts de Sherry. Maintenant, effectivement, depuis maintenant 20 ans, on travaille avec un tonnelier de Douarnenez, qui est le seul tonnelier connu en Bretagne, avec des chênes qui viennent de la forêt du Cranou, en dessous de Brest. Et donc, c'est un petit peu notre matière de bretonniser notre whisky, de lui donner une légitimité, vraiment un ancrage territorial.
Alors, il y a whisky et whisky. D'ailleurs, vous ne m'avez pas répondu. Écossais ou irlandais, selon vous, vous ne tranchez pas le débat. Bon, c'est très bien. Pour faire du bon, dites-moi, c'est compliqué ou finalement, vous avez tout sous la main. Vous avez la bonne eau, vous avez les bons produits, vous avez le bois qu'il faut.
Alors, c'est quand même un métier.
Ouais.
Effectivement, je pense que les matières premières dans le whisky, on les trouve finalement relativement facilement. Bon, il faut une eau de qualité, évidemment. L'orge, en France, on est très bons producteurs d'orge, de malt aussi. La tonnellerie française est renommée. Maintenant, il y a quand même un savoir-faire qui est pas à la portée de tout le monde. Il faut maîtriser à la fois le savoir-faire de brassage, comme dans les brasseries.
Comme pour la bière, oui.
Comme pour la bière. Ensuite, le savoir-faire de distillation. Et encore le savoir-faire de vieillissement, voire d'assemblage, pour proposer des produits de qualité.
Que dit notre spécialiste maison, Sylvain Lambert?
Qui est né dans un fût d'ailleurs.
Ça fait un moment qu'il attend l'émission, je peux vous le dire.
Absolument. Ça a pris combien de temps, parce que d'être le premier français là-dessus, peut-être on verra avec les autres qui eux sont arrivés dans un univers déjà existant, ça a pris combien de temps pour que la marque soit reconnue et que ça décolle vraiment? Et qu'est-ce qui a fait décoller? C'est le fait que ça soit français ou la qualité?
Première production, ouais. C'est quoi, 83, 87?
83, on commence à distiller. 87, on met le premier produit sur le marché. On en parlait tout à l'heure, mais effectivement, la chance qu'on a, c'est qu'en Bretagne, on a un marché où les gens sont quand même assez férus de produits locaux. Donc, c'était un de nos avantages. Maintenant, je dirais que ça a pris quand même vraiment, vraiment beaucoup de temps pour arriver à faire admettre qu'on pouvait faire du whisky en France et en Bretagne en particulier. Et là-dessus, je pense qu'on peut remercier les whiskies japonais, puisque finalement, ils sont arrivés, on va dire, dans les années 2005. Et là, les gens ont commencé à changer un petit peu d'attitude et à se dire, finalement, on peut faire du whisky ailleurs. On peut en faire au Japon, on peut en faire en Inde, on peut en faire à Taïwan. Et pourquoi pas en France et pourquoi pas en Bretagne.
Et donc, ça a vraiment décollé. Il est avec nous, hein, ce whisky. Si vous nous suivez sur Europe1.fr, le whisky Armorik Single Malt, double maturation,
oui.
C'est-à-dire
c'est vraiment le fer de lance de la distillerie.
Pour les néophytes.
C'est première maturation dans les fûts de chêne bretons dont on parlait tout à l'heure.
Oui.
Et une deuxième maturation dans des fûts de Xérès espagnol.
Combien est-ce que vous êtes aujourd'hui dans la distillerie? Est-ce que ça fait vivre économiquement en partie la région?
Alors là, on est 20 à la distillerie aujourd'hui. Et je dirais sur les 120 dernières années, on est en moyenne entre 10 et 15.
Et vous êtes connu sur l'ensemble du territoire aujourd'hui avec ce whisky-là. Vous arrivez à faire de l'export?
Oui,
aussi
absolument. En fait, si on parle spécifiquement du whisky, on fait 20% à l'export, 30% sur la France et le reste, 50% sur la Bretagne elle-même.
Et 250 000 bouteilles par an, c'est ça?
250 000 bouteilles, oui.
Benjamin, l'état des lieux, on parlait des distilleries justement il y a un instant. Est-ce qu'on peut dire que la France aujourd'hui est un pays de whisky?
Oui, aujourd'hui on en compte 33 des distilleries de whisky. Alors ça devrait doubler cette année, hein, puisque l'alcool doit vieillir de 3 ans en barrique pour ainsi revendiquer le nom de whisky et commencer sa commercialisation. Donc on devrait en avoir 60 en 2019. Et elles sont présentes un petit peu partout sur le territoire. Il y en a beaucoup en Alsace, en Bretagne, en Aquitaine près de Bordeaux et même à Paris.
Et on va continuer ce voyage au nouveau pays du whisky qu'est la France dans un instant, Anissa.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
En 2015, il avait été élu 5e meilleur whisky au monde, le PM Écorce, et c'est lui qu'on découvre dans un instant. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1, tous les jours entre 13h et 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et aujourd'hui, la France fait du whisky. Raphaël, nous découvrons ces whisky made in France. Ils sont avec vous aujourd'hui. Et vous pouvez, vous aussi, si vous avez des questions, poser des questions aux invités de Raphaël Duchemin. Ça se passe dès maintenant au standard d'Europe 1, le 39-21 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Et on l'a vu, hein, faire du whisky en France aujourd'hui, ce n'est plus si exceptionnel que ça. Les distilleries sont en train de croître, mais il y a une époque où sur la carte, elles n'étaient pas si nombreuses que ça. Bonjour Stéphane Venturini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez la distillerie Mavé, là en pleine orientale, en Corse. Et vous aussi, comme en Bretagne, finalement, au départ, c'était des fruits, la base, pour les liqueurs, qui étaient finalement la base de travail de la distillerie familiale.
Tout à fait. Au début, on a commencé par de la distillation de fruits et puis très vite, un petit peu comme armorique, on s'est tourné vers le whisky et on a emboîté le pas quelques années après.
Alors, c'est votre père, je crois, qui a commencé à faire du whisky. La première fois, on était en 1999.
C'est ça.
Pourquoi il a envie de faire du whisky à ce moment-là?
Déjà, il avait envie de faire quelque chose de différent. Et il s'est tourné vers le whisky parce qu'il avait une passion sur ce spiritueux. Et c'est une suite logique. Quand vous avez une distillerie, que vous voulez faire un produit de qualité, vous êtes intéressé par tout ce qui se fait. Et directement, je dirais, suite à des dégustations, des rencontres, il s'est tourné vers ce produit puis parce qu'il aimait relever des défis. Et c'était un petit peu fou déjà de dire on va faire du whisky en Corse.
Et puis vous, je crois que c'était aussi un peu votre dada. Vous avez fait votre licence de commerce là-dessus, non?
J'ai fait ma licence de commerce là-dessus. Heureusement d'ailleurs, c'est grâce à ça que je l'ai eue. Mais voilà, c'était peut-être un petit peu comme les Bretons. On est quand même assez comparables.
Il y avait cette envie de produit identitaire.
Il y avait cette envie de produit identitaire, de créer un produit de qualité et de créer une économie aussi sur la région, la micro-région, et pouvoir s'exporter, sortir de l'île.
Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce fameux whisky PM? Vous avez, je crois, été très bien noté. J'ai dit 2015, c'est 2014, par le pape du whisky. Note excellente, hein, puisque vous étiez 5e meilleur whisky au monde. Ça n'arrive pas tous les jours. Qu'est-ce qui fait la différence?
C'est justement la différence. C'est-à-dire qu'on a voulu copier personne. On a essayé d'apporter un regard nouveau sur le produit. Et ce qui nous motivait, c'était vraiment le côté gustatif. Donc on a vraiment travaillé sur ce côté-là, de par la sélection des maltes, la distillation, la réduction à l'eau de source du col Saint-Georges et le vieillissement. Alors il faut savoir qu'en Méditerranée, on a un vieillissement, et particulièrement en Corse, un vieillissement qui est quasiment x2 par rapport à l'Écosse, par rapport à l'hydrométrie et à la température. Mmh. Et aussi la sélection des fûts que nous avons fait a fait qu'on a créé quelque chose de nouveau sur le panel des whiskies qui étaient sur le marché. On peut aimer ou pas aimer, mais en tout cas, on est différent, on le reconnaît.
Vous travaillez aussi, et on en parlait, de l'importance des brasseries avec Pietra, qui est également une marque régionale. C'est important, justement, d'avoir cet écosystème à disposition.
Alors, c'est très important, parce que pour faire un whisky, il faut une brasserie, une distillerie, hein, comme il l'a expliqué précédemment. Mais c'est important aussi de regrouper, de mettre en synergie différents acteurs. Alors là, on le voit sur la brasserie Pietra et la distillerie Maville pour faire le PM. Mais on le voit aussi au sein de la Fédération française des whiskies, à laquelle on appartient tous les trois, et pour laquelle on a œuvré depuis le début pour essayer de fédérer et mettre un peu plus de monde autour de cette table et faire sortir le produit de France.
On parlait des éléments de différenciation, j'ai regardé. Vous êtes à 42 degrés, la plupart sont à 40. Ça aussi, c'est quelque chose qui joue justement dans le goût.
Pour l'anecdote, quand on a commencé à faire du whisky, on l'a fait comme on faisait de l'eau de vie, c'est-à-dire qu'on allait chercher de l'arôme, on a distillé comme on voulait, on distillait les fruits, et on l'a mis sur le marché à 42 degrés comme on commercialisait les eaux de vie de fruits, tout simplement.
Qu'en pense notre spécialiste, Sylvain? Ah, je vais vous embêter aujourd'hui.
Non, non, mais il en pense que dès ce soir, il va en commander pour le goûter, parce qu'il connaissait les deux autres et vous ne connaissez pas encore. Mais quel est aujourd'hui vos principaux canaux de distribution? J'expliquais d'ailleurs la difficulté logistique avec la Corse, donc...
Alors, il y a une difficulté logistique, effectivement, mais après, il y a aussi une chose, c'est qu'on a l'avantage et la chance aujourd'hui que nos whiskies sont quasiment pré-vendus ou commandés quasiment d'une année sur l'autre. Alors, ils sont vendus sur le site internet, mais essentiellement, ils sont commercialisés dans les boutiques partenaires, les boutiques qui ont commencé à vendre notre produit avant que nous soyons connus, et les boutiques qui ont fait vraiment cette démarche de proposer quelque chose de nouveau et qui était même au tout début incompréhensible ou voire mécompris par la presse.
Vous vendez beaucoup à l'export aujourd'hui?
Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit mon ami et confrère. Oui, l'export, alors on vend en Corse, on exporte en France et à l'international, hein, donc un petit peu comme la Bretagne.
Petit clin d'œil.
Non, ce qu'il y a, c'est que sincèrement, on n'a pas les quantités aujourd'hui pour
aller
sur de nouveaux...
Combien de bouteilles aujourd'hui?
À peu près 50 000 bouteilles.
50 000 bouteilles. Benjamin, justement, notre whisky se vend en France et à l'étranger. Comment ça se passe?
Exactement, on en parlait tout à l'heure, surtout le marché asiatique de plus en plus, hein, la Chine, le Japon, il y a aussi l'Asie du Sud, hein, là-bas, les produits français ont toujours la cote, alors qu'ici, bon, on a tendance à se méfier en France de la nouveauté. Eh bien, les Asiatiques, eux, sont friands de whisky français. Et puis, en Europe, on exporte aussi notre whisky chez nos voisins, en Belgique et aux Pays-Bas.
Alors, vous avez dit whisky français, on dit whisky français ou on dit whisky de France?
Alors, ça a fait débat, Et en fait, la Fédération nationale a tranché, il faut dire, whisky de France. Alors à condition que les opérations de brassage, de fermentation, de distillation et de vieillissement ont lieu en France.
Sylvain ?
C'est quoi le positionnement aujourd'hui de la France ? Est-ce qu'il est très disparate ou est-ce que la France, c'est des whiskies plutôt de qualité, de terroir haut de gamme, ou est-ce qu'on a aussi du bas de gamme pour aller dans le coca ?
Alors, les vrais whiskies français sont des whiskies haut de gamme, des whiskies de qualité, pas forcément chers quand on les compare aux whiskies étrangers.
C'est-à-dire, donnez-nous une petite fourchette.
C'est une fourchette de prix entre 40 et 150 euros, ce qui est très raisonnable par rapport à la qualité, par rapport à la diversité, l'attachement au terroir et au territoire. On offre un panel aromatique complètement différent parce que attaché à son territoire. Donc aujourd'hui, pour moi, le whisky français est un produit qui est peu cher par rapport à sa qualité.
Anissa ?
On sait qu'en France, on a quand même une certaine position en matière de gastronomie, de mode, etc. Dans certains pays, on est les premiers dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des pays où le whisky de France est très attendu ? Est-ce qu'il y a des pays qui raffolent de notre whisky ?
Alors, je pense que déjà en France, puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, c'est 200 millions de bouteilles vendues dans le monde. Les whiskies français, la production totale, c'est 1 million de bouteilles, quasiment vendues en France, sachant que la France est l'un des plus gros consommateurs de whisky. Donc déjà, allons conquérir ce premier marché-là, et après, on s'exportera.
On reste ensemble, et on continue notre tour de France aujourd'hui. Il est 13h18.
Raphaël Duchemin.
De nouvelles distilleries voient le jour et elles sortent leurs premiers produits. Nous partons dans un instant pour le Vercors. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Nous découvrons aujourd'hui les whisky made in France. Le whisky de France, ils sont autour de la table. Raphaël Duchemin, vous pouvez, si vous êtes amateur de whisky, venir poser toutes vos questions aux invités de Raphaël. Ça se passe dès maintenant au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et le whisky, c'est souvent aussi une affaire de famille, un nouveau projet, un projet de vie. Je crois que c'est votre cas. Eric Cordel, bonjour.
Oui, bonjour Raphaël, bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre nom dit peut-être quelque chose à certains auditeurs qui nous écoutent parce que vous avez à une époque été remercié de la Société Générale. Vous étiez le supérieur de Jérôme Kerviel quand l'affaire a éclaté. Reconversion un peu forcée du coup. Pourquoi vous êtes tourné vers le whisky ? Qu'est-ce qui vous a poussé ?
En fait, au-delà de effectivement cette histoire, ça faisait longtemps que j'avais en tête que j'avais envie de fabriquer quelque chose, de produire quelque chose. Et effectivement, un bon coup de pied au derrière, ça permet de se poser les bonnes questions et donc de changer complètement de fusil d'épaule et de se tourner vers quelque chose que j'avais au fond de moi. Et voilà. Et en fait.
Et votre femme aussi a joué un rôle
important. Parce qu'une fois qu'on est devant la page blanche et qu'on se dit qu'on va faire quelque chose, c'est pas toujours très facile. Et c'est une idée qu'elle a eue en lisant un magazine breton, parce qu'elle est bretonne, donc il y a du régionalisme. voilà, des gens qui parlaient de leur distillerie. Et puis elle m'a dit comme ça un jour tiens, regarde, ça tirait bien, c'est fait pour toi, ça.
Et alors, comment est-ce que vous arrivez dans le Vercors ? Pourquoi le Vercors ?
Alors, une fois qu'on s'est décidé de se lancer...
Oui, Sylvain, je sais, le Vercors, c'est très
beau. Parce que c'est beau, voilà.
En fait, on avait un cahier des charges pour construire... Alors, nous, on n'avait pas donc, une histoire avec des générations derrière nous. Donc, c'était vraiment une création qu'on voulait faire. Et on avait un certain nombre de critères. Et le principal, je pense, c'était de trouver une source qui corresponde au whisky qu'on voulait faire. Donc, on s'est fait aider d'un ami hydrogéologue. Et on a un peu regardé les zones en France. Et on a sillonné la France pendant presque 2 ans. Avant d'attirer un petit peu là dans le Vercors et au pied du Vercors et avec des sources magnifiques.
Donc vous avez trouvé la source, il fallait trouver plus que ça, parce que la source ça ne suffit pas. Certes il faut de l'eau pour faire du whisky, mais pas uniquement.
Et il fallait aussi des bâtiments, ouais. des jolis bâtiments. Et en fait les deux vont quand même ensemble, on s'en est rendu compte. C'est-à-dire que les vieux bâtiments sont construits là où il y avait de l'eau.
Donc vous avez trouvé une ancienne magnanerie, c'est ça ?
Exactement, une ancienne magnanerie, donc même une grosse magnanerie du coin au 19e siècle. Bon, qui avait le verre à soie, c'est fini aujourd'hui. Ouais.
Ça redémarre un peu timidement, mais ça redémarre. Enfin, on l'espère, ouais, dans quelques régions. Une fois que vous avez le bâtiment, qu'est-ce qui se passe ? Vous commencez à refaire et...
On s'est installé il y a un peu plus de 4 ans, pratiquement 5 maintenant. Les deux premières années, donc il y a eu une phase de d'autorisation, puis ensuite la construction de la distillerie elle-même. Donc ça, voilà. Et puis ça fait 2 ans et demi maintenant que je distille.
Donc pour l'instant, pas de whisky. En tout cas, on ne peut pas mettre sur les étiquettes le mot whisky. Ce sera bientôt. Hein, les premières bouteilles vont sortir en septembre, c'est ça. Donc là, vous nous avez amené quoi exactement ? Ceux qui nous suivent sur Europe1.fr peuvent voir des bouteilles qui sont les vôtres.
Exactement. Alors nos deux premiers produits que j'ai appelés, donc c'est des bébés whisky, donc qui n'ont pas l'appellation whisky, et qu'on a appelés pure malt, qui sont fabriqués comme des whisky, mais qui n'ont pas vieilli suffisamment longtemps dans les fûts.
Et votre spécificité alors, par rapport au whisky breton, à Armorique, au PM Corse, quelle est-elle?
Alors ça, c'était... Moi, il y avait un côté qui me fascinait un petit peu dans ce projet, hein. C'était la distillation. J'ai une formation d'ingénieur et je voulais, voilà, c'est ça qui m'amusait. Et j'avais envie de travailler sur ce côté alchimie de la distillation. Et j'ai eu une idée de, qui vient de la cuisine, de me dire, tiens, on peut en cuisine faire des choses très différentes au niveau de la cuisson. Et donc, moi, j'avais cette idée de faire un petit peu différemment des Écossais. Je voulais faire un whisky à moi. Et
ah,
de faire
donc
de la...
pour vous, le whisky est écossais.
Des Écossais, historiquement, voilà. Ouais. Et de faire un whisky différent. Et donc, l'idée que j'ai eue, c'est de distiller à basse température pour avoir des arômes différents, comme on peut faire griller une viande au barbecue, c'est très très bon, mais un gigot de 7 heures aussi, c'est très très bon.
Donc, au lieu d'être entre 85 et 100, vous êtes autour de combien?
Alors, je peux choisir, mais en ce moment, je distille à 50 degrés à peu près.
D'accord. Qu'est-ce que ça apporte de différent?
Eh bien, c'est une sorte de cuisson différente, et ça apporte des arômes différents qui sont très fins.
Il y a du moelleux, peut-être?
Il y a
peu
beaucoup
plus.
De rondeur, exactement, et ça fait de la finesse aromatique. Et sinon, le reste du procédé est assez traditionnel. C'est vraiment cette distillation qui est différente.
Sylvain ?
Tu décris l'installation, mais pour les gens qui nous écoutent, comment on arrive à créer la marque, créer une attirance pour le produit, alors que pendant 4 ans, si j'entends bien, il n'y a rien qui existe. D'abord, tu arrives, on ne te connaît pas, le produit n'existe pas, il faut distiller, il faut se préparer. Et pourtant, la marque est connue aujourd'hui. Donc, comment tu as fait ? Et comment on peut tenir ces années-là ? Est-ce qu'il y a des aides de la région, des aides locales ?
En faisant plus fabriquer un alambic.
Oui, en faisant fabriquer un alambic.
Il faut aller visiter à Saint-Jean-Royant dans le Vercors. Le lieu qui est magnifique, mais comment on tient? Ouais. Comment on fait?
Alors, déjà, je ne suis pas tout seul, donc il y a ma femme. Donc,
aujourd'hui,
plus on a 2 salariés. Il y avait un volet qu'on voulait absolument développer parce qu'on avait visité des distilleries, on trouvait ça très sympa. On voulait que les distilleries visitent et qu'on puisse montrer notre travail. Et donc ça, c'était important pour commencer à se faire connaître. Et puis sinon, c'est un travail de fond et c'est essayer de faire goûter nos produits. Et on croise les doigts, on se dit, si les gens aiment bien, ils en parleront autour d'eux. Et donc un petit peu de bouche à oreille. Et puis le Vercors est magnifique. La Corse et la Bretagne sont aussi magnifiques, attention. Mais le Vercors est magnifique. Et donc il y a des gens qui passent et qui sont contents de déguster un bon produit dans un cadre magnifique.
On reste ensemble, on continue à parler whisky aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
39-21, on vous attend, bien sûr. Venez partager avec nous votre amour du whisky. Posez aussi vos questions à nos invités si vous en avez. C'est la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours de 13h à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, avec vos invités. Aujourd'hui, nous découvrons les whiskies de France, les whiskies made in France. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'il faut les poser aux invités de Raphaël Duchemin au 39-21 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Oui, j'étais en train de faire un peu
un
de rangement.
Non,
pas du tout. De faire un petit peu de rangement. Je voudrais qu'on s'intéresse à l'histoire, Benjamin, parce que j'ai lancé un débat tout à l'heure, je n'ai pas vraiment eu de réponse sur l'histoire du whisky. Quand est-ce que ça commence et surtout, à quel endroit? L'Écosse ou l'Irlande? Telle est la question.
Ni l'un ni l'autre. En fait, la technique de distillation date d'il y a 2500 ans. Hein. C'était les marins grecs qui faisaient bouillir de l'eau de mer pour la boire. Et c'est arrivé ensuite en Grande-Bretagne, notamment en Écosse, entre le 12e et le 14e siècle.
Alors, qui veut me répondre, Écosse ou Irlande?
Personnellement, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il y avait un Corse au départ. Accompagné d'un Breton.
Le Corse est voyageur. Même question, Irlande, Écosse, vous avez fait des recherches?
Il me semble avoir lu quelque part que la plus ancienne trace écrite venait d'Écosse, je crois.
D'accord.
C'est ce que j'ai trouvé aussi.
Oui, c'est ce que tu... Bon. Éric Cordel?
Moi, j'ai pas tellement d'avis
d'avis
entre l'Écosse et l'Irlande.
Bon, on va dire qu'il est de France aujourd'hui le whisky. Sylvain, une question?
Mais non, mais déjà, j'allais contribuer en disant qu'on trouve des traces dans les légendes arthuriennes d'ancêtres du whisky, donc plutôt situés autour de l'Écosse par là-bas. Donc, ça pourrait contribuer à ce que tu dis.
Si on parle avenir, qu'est-ce que vous avez prévu? Des cuvées particulières, des produits particuliers, un développement aussi qui veut commencer, Stéphane Ouventourine?
Alors, je pense qu'on marche tous dans le même sens, c'est-à-dire des cuvées, des single casks, apporter encore de la nouveauté pour enrichir nos gammes, mais surtout essayer de faire un produit qui se tourne vers une agriculture biologique le plus propre et le plus environnementalement possible, je dirais, et surtout qui est ancré dans son territoire. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'avenir, c'est ça, c'est-à-dire une céréale issue du territoire, une distillation, un vieillissement et un assemblage avec de l'eau. pour laisser un maximum d'économies dans la micro-région et vraiment mettre cette micro-région en avant.
Même démarche, j'imagine, pour Armorik.
Oui, tout à fait. Ça fait déjà quelques années qu'on distille des céréales exclusivement bretonnes, si possible issues de l'agriculture biologique. Et là, on est dans une phase aussi de construction. On vient de terminer un chai pour stocker toujours plus de whisky en vieillissement et un nouvel espace de visite et d'accueil des visiteurs là, qui va sortir de terre dans un mois.
Eric Cordel.
Et nous, je pense effectivement que la problématique environnementale est importante. On a choisi de faire du bio et puis on recycle aussi notre chaleur parce qu'une distillerie, ça consomme de la chaleur.
On a quelques messages, Anissa, sur Twitter.
Alors, on a un message du Magnifique sur Twitter qui nous dit « Dans la Loire aussi, on fait même du saké ».
Bon, voilà. On est en train de préparer hein, une émission spéciale sur les autres alcools, mais le whisky, il y avait vraiment... de quoi faire, donc on a commencé par là, mais je vous promets une autre émission sur les autres alcools.
Fabriqués en France.
Exactement. Benjamin, je crois que vous vouliez intervenir.
Oui, exactement, parce que je trouve que le whisky a gardé une image très masculine. Vous, est-ce que vous essayez de casser cette image et d'atteindre des femmes
J'ai vu une petite étiquette là. Women's Wine and Spirit Award, Eric Cordel.
Oui,
ça veut dire que c'est peut-être un peu plus féminin?
Ben, alors, féminin, oui. Alors, il plaît aussi aux hommes, mais il plaît aussi aux femmes, effectivement. Je suis souvent étonné on a des gens qui passent à la boutique et il y a autant d'hommes que de femmes qui aiment. Alors, effectivement, on a fait le choix d'être sur des arômes assez fins, assez élégants. Et effectivement, ça plaît aux femmes. Hein. Je confirme.
Ouais, ça plaît aux femmes ou vous avez plus des hommes qui viennent acheter les bouteilles, que ce soit PM ou Armorik?
Nous, chez nous, à la boutique, on a souvent des gens qui viennent en couple. Et ça arrive assez régulièrement que la femme ne souhaite pas goûter. Et puis, elle s'y essaye. Et souvent, elles sont les premières surprises qu'elles apprécient ça au moins autant que leur mari.
Anissa ?
Moi, j'ai une question personnelle. Ça va peut-être irriter vos oreilles, mais vous êtes les spécialistes du whisky. Comment on y se boit le whisky ? Glace, pas glace ? Du soda, du jus d'orange, de l'eau ? Qu'est-ce qu'on met dans le whisky ? Vous êtes des spécialistes.
Il n'y a pas de débat. C'est très simple.
Comme on l'aime, non ?
Comme vous l'aimez. Le tout, c'est que ça procure du plaisir.
Et si on le mélange à autre chose, par exemple un soda, ce qui se fait quand même assez régulièrement, ça ne ruine pas le goût du whisky ?
Ça le dénature. Après, on vous conseillera de prendre un autre alcool.
Donc, le plaisir avant tout, avec modération bien sûr. Merci d'être venu nous parler whisky aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h35.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va s'intéresser dans 2 minutes maintenant à une entreprise qui est un des fleurons de la French Fab, c'est Forcy Power. A tout de suite.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Raphaël, il est temps de découvrir l'entreprise française qui va bien aujourd'hui.
Le train, le bus, les poids lourds électriques, c'est eux. En tout cas, pour une partie demain aussi, vous verrez, il y aura tout un tas de nouveaux véhicules qui vont arriver. Bonjour Christophe Gürtner.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de Forcy Power. Ça fait 30 ans que vous êtes dans le métier de la batterie. Et puis, il y a une quinzaine d'années, je crois, vous vous êtes dit qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait peut-être aller davantage vers la mobilité électrique. Pour quelle raison ?
Effectivement, je suis dans le métier de la batterie depuis une trentaine d'années maintenant. Et il y a une bonne dizaine d'années, souvenez-vous, à l'époque du Grenelle de l'environnement, on parlait déjà d'un passage à les énergies nouvelles.
Alors effectivement, donc c'est ça qui fait sens pour vous à ce moment-là ?
Non, c'était, j'allais dire, un accélérateur. Alors cet accélérateur à ce moment-là a fait long feu et puis on n'en a plus parlé pendant un certain temps. Mais la lame de fond était là et donc on s'est positionné effectivement avec une idée qui est de dire « Demain, les véhicules vont probablement devenir électriques ». Prenons une place sur ce marché-là, constituons une entreprise qui va fournir ce type de solution.
Et donc en 2011, oui. Vous décidez de créer Forcy Power. Pourquoi Forcy d'ailleurs ? Parce que justement il y a ce mouvement vers l'avenir ?
Oui, c'est un jeu de mots et ça fait partie du jeu de mots, oui, absolument.
Vous commencez à racheter des sociétés pour pouvoir avoir la main aussi sur les différentes technologies parce que la batterie électrique c'est quand même compliqué.
Alors effectivement, c'est compliqué, il faut y travailler longtemps et comme en Europe, de manière générale, on n'y a pas cru avant à ce positionnement-là. Il a fallu rattraper un petit peu de retard par rapport à des concurrents asiatiques qui, eux, étaient soutenus d'ailleurs par les pouvoirs publics à l'époque. Et donc la manière de rattraper le retard, c'était de reprendre des activités qui existaient déjà, qui étaient positionnées différemment, mais dont, qui avaient des compétences. Et donc c'était de réunir, d'agglomérer ces compétences et de les positionner sur ce qui est aujourd'hui le marché pour nous du transport électrique.
Et alors votre premier produit, vous vous en souvenez, il sort où, il sort quand et qui vous l'achète ?
Alors les tout premiers produits, ce n'était pas des produits pour des gros véhicules, hein, c'était plutôt des batteries pour des scooters, des vélos électriques, des équipements médicaux, etc. Ce qui est aujourd'hui encore une activité très importante pour nous. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure, on a développé, on a proposé des concepts, des démonstrateurs pour des véhicules lourds. Et donc on a passé quand même quelques années à expliquer que ce basculement vers l'électrique aurait lieu sur les véhicules industriels
et sur les
bus.
Donc vous étiez convaincu, vous, qu'on allait devoir mettre de l'électrique dans les bus, dans les trains, dans les voitures ?
Oui, totalement convaincu. D'ailleurs, en Asie, en Chine, ça avait déjà démarré. Donc il fallait les convaincre que ça se produirait également en Europe et en Amérique. Et c'est ce chemin un petit peu long et un peu difficile qu'il a fallu traverser. Hein, et puis aujourd'hui, arriver à un moment où ça bascule.
Aujourd'hui, par exemple, justement, ça bascule parce que si on regarde le dossier RATP, les bus, c'est vous qui allez mettre de l'électrique à l'intérieur pour les faire rouler ?
Effectivement. Alors nous, on fournit nos clients qui sont les fabricants de bus ou les fabricants de véhicules de manière
Eliez,
générale.
En l'occurrence.
Eliez et Alstom, qui sont nos clients. Mais nous équipons effectivement leurs véhicules. Nous avons travaillé avec eux pendant des années pour mettre au point les batteries de ces bus électriques qui permettent aujourd'hui d'avoir une journée complète d'autonomie sans aucun arrêt. Oui, tout à fait.
Que dit notre coach ?
Quels sont les plus gros challenges à venir de la batterie ? C'est la taille, le poids, la capacité, la rapidité de recharge ou éventuellement un sujet dont on parle, la fin de vie ?
Bon, d'abord, on est ici au début d'une histoire. Hein. Imaginez qu'on est au début du XXe siècle, moteur à combustion, on est au début du XXe siècle, le moteur électrique, même s'il a existé des solutions électriques il y a un siècle. Aujourd'hui, quand on parle de batterie, c'est un système extrêmement complexe. Ce n'est pas que de l'électrochimie, hein. C'est un composant, mais c'est de l'électronique, de la mécanique, de la thermique, du logiciel, etc. Donc c'est la combinaison de tous ces savoirs, de toutes ces compétences et toutes ces techniques en un système qu'il faut aujourd'hui optimiser en termes de, à la fois d'autonomie, mais aujourd'hui pour le transport public, on y est, qu'il faut optimiser en termes de durée de vie parce que c'est plus cher hein, qu'un moteur thermique, mais si ça dure longtemps, on arrive à l'amortir sur une durée de vie qui peut être de 7 ans, de 10 ans, de 15 ans. Donc effectivement, ça devient économiquement viable. Et puis le coût lui-même, il faut le réduire. Et puis il faut trouver des nouvelles solutions, il faut optimiser, il faut...
Hybride,
par exemple, ou étendre le champ d'utilisation de la batterie. Demain, on pense, et on est en train de travailler sur les trains hybrides, des trains électriques, donc des véhicules plus lourds. On travaille énormément sur des bateaux, donc pour que les ports, par exemple, qui sont des zones extrêmement polluées, deviennent des zones plus vertes. Donc le champ de développement de ce genre d'application n'en est qu'à son début.
Vous étiez 40, je crois, au départ. Vous êtes un peu plus de 500
on était
aujourd'hui.
4, puis 40, ouais. Puis un peu plus de 500 aujourd'hui.
Et vous allez recruter 300 personnes d'ici 2021 sur votre site de Poitiers.
Sur le site de Chasseneuil-du-Poitou, donc en face du Futuroscope, où nous avons démarré au mois de septembre.
Et là, vous allez commencer l'industrialisation.
On a démarré l'industrialisation, on produit déjà.
Pour les poids lourds, hein, notamment.
Pour les véhicules industriels. Poids lourds, de manière bus, camion, train, bateau, pour toute l'Europe et un petit peu au-delà. Et à l'heure qu'il est, on est déjà 150 personnes sur le site. Et donc effectivement, on va continuer notre campagne d'embauche au fur et à mesure de notre développement.
Et vous avez levé 15 millions d'euros avec la BPI.
Récemment, oui, effectivement, avec la BPI.
Justement,
absolument.
Pour...
Oui, tout à fait, qui soutient notre démarche, absolument, qui détient notre démarche, qui est d'ailleurs une démarche d'investissement et d'industrialisation en France. Il faut savoir que la plupart des investissements dans ce métier-là se font en Asie. Nous, on a choisi d'investir en France et de servir le marché européen à partir de la France. Donc, bien sûr, on est tout à fait satisfait de cette reconnaissance et de cet appui. Et pour répondre à votre question concernant la seconde vie et la fin de vie, effectivement, on peut... aujourd'hui, sur les voitures particulières, se posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est rentable, etc. C'est une question qu'on peut se poser à partir du moment où le véhicule n'est pas utilisé toute la journée. Mais dans le transport public, vous utilisez le véhicule toute la journée, tous les jours de la semaine. Donc, vous allez vraiment complètement utiliser l'énergie que vous avez embarquée. Et donc là, la rentabilité, elle est réelle. Et au-delà de ça, effectivement, une batterie en fin de durée de vie sur un véhicule, vous pouvez la retirer du véhicule et la mettre dans un bâtiment, ici dans ce bâtiment, pour l'électricité, pour la sauvegarde, etc. Donc vous pouvez générer une seconde vie et nettement améliorer la durée de vie. Et vous pouvez le recycler ensuite.
C'est ce qui fait de vous un des fleurons de la French Fab. C'est Forcy Power, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler.
Merci beaucoup.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Un site pour vous familiariser avec la langue de Shakespeare, c'est Streamglish et c'est la solution aujourd'hui sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h et comme chaque jour, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour.
Trois quarts des collégiens sont incapables, Anissa, de s'exprimer correctement en anglais. Ce sont les derniers chiffres. Une start-up s'est donc lancée un défi, celui de nous réconcilier, ou les réconcilier en tout cas avec l'anglais. Benjamin, vous nous présentez aujourd'hui Streamglish.
Mais oui, c'est un site internet qui vous propose eh bien, tout simplement d'apprendre l'anglais autrement. En fait, il suffit de se connecter et chaque jour, eh bien, on va regarder une courte vidéo. Ça peut être un reportage télé, un documentaire ou une série en anglais et sous-titrée en anglais. La particularité, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de sous-titrage. Si vous êtes débutant, par exemple, eh bien, tout le dialogue sera écrit avec la traduction en français des mots compliqués. Et si vous êtes expert, eh bien là, seulement le mot compliqué sera écrit.
Bonjour Timothée Luneau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé Streamglish il y a un an. Expliquez-nous, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs niveaux de sous-titrage, justement ?
Alors, Streamglish, donc streamglish.com, c'est un site pour vous réconcilier avec l'anglais. On part de contenu attractif.
Oui.
C'est vraiment le point de départ. On veut vous réconcilier, donc on va aller chercher du contenu qui vous plaît. C'est-à-dire du journal télé, on a un partenariat avec France 24 English notamment, des séries, des documentaires. Et ça, c'est le point de départ parce que le plus important, c'est de travailler régulièrement. Donc avec du contenu attractif, on va vous faire travailler régulièrement. Et ce contenu, il est unique et après, il faut être capable de le décliner par niveau.
Ah oui, donc ça veut dire qu'il y a le même contenu, mais il y a les différents niveaux qui sont affichés avec les sous-titrages.
Avant de démarrer la vidéo, vous choisissez votre niveau d'anglais et plus vous êtes bon en anglais, moins on va vous afficher d'anglais.
Et le sous-titrage, toujours en anglais, c'est ça ?
Toujours en anglais. Alors, c'est vraiment le point clé. Pour apprendre une langue, le plus important, c'est la langue des sous-titres. Si vous mettez le sous-titre en français, votre cerveau, qui est très intelligent, il va lire le français et il va fonctionner en français. Donc, vous n'allez pas progresser.
Donc, immersion totale.
Immersion totale. Mais immersion totale, si vous n'avez pas la petite bouée de sauvetage, qui est la traduction, donc nos sous-titres pédagogiques, que nos sous-titreurs et traducteurs et professeurs vont créer tous les jours pour vous, avec cette bouée de sauvetage, vous allez pouvoir comprendre et éviter de décrocher.
Alors justement, là, ça fait un an que ça a été lancé, vous avez quand même un an de recul. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça y est, les gens sont bilingues ? C'est quoi les retours ?
Alors, les retours, les gens sont enthousiastes, on a organisé des retours. Ils restent abonnés, ils consomment beaucoup. On a plus de 50% des gens qui sont connectés une à trois fois par semaine. Ou même un peu plus. Donc c'est énorme. Et surtout, dans le temps, ils restent abonnés. On a un taux de désabonnement qui est très faible, de 2 à 3%. On travaille aussi avec des organismes de formation maintenant qui nous intègrent dans les parcours. Parce que la vraie clé pour eux, c'est d'éviter le décrochage. C'est que les gens travaillent régulièrement, etc.
Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi toquer aux portes du ministère de l'Éducation nationale ? Par exemple, les profs d'anglais qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent utiliser Streamglish pour leurs cours, pour leurs élèves ?
Alors, c'est un outil, il y a des profs qui nous utilisent. C'est un très bon outil parce que c'est lié à l'actualité, c'est quotidien. Et on a mis en place maintenant une offre effectivement de découverte gratuite pour les enseignants et les professeurs d'anglais et leurs classes qui peuvent découvrir gratuitement la plateforme.
Que dit notre coach de Streamglish ?
Quel est le coût pour un abonné lambda ? Je veux y aller, je veux mieux parler anglais.
Alors, le premier mois d'essai est gratuit. Et ensuite, c'est 7,99 par mois. Si vous voulez vous désabonner quand vous voulez.
Quel que soit mon niveau d'expertise, c'est 7,99.
Quel que soit votre niveau. Et là, vous avez accès aux 500 vidéos en illimité, en streaming.
Pourquoi on est si mauvais en anglais en France ? Vous avez peut-être la réponse ?
Alors, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je sais qu'une très bonne solution pour y arriver, et ça, parce que l'idée de départ est venue d'un prof d'anglais qui nous avait dit, vous savez, la meilleure méthode, je la connais. La méthode magique, c'est d'en faire tous les jours. Et il disait ça un petit peu en rigolant, mais c'est vrai. Et nous, notre point de départ, c'est de dire comment est-ce qu'on peut en faire tous les jours.
La suite, c'est quoi, Benjamin ? L'appli, peut-être, non ?
C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander.
Et la suite, effectivement. On est en train de développer une application. C'est ce qu'on va sortir pour la rentrée prochaine.
Rentrée 2019
ou septembre 2019.
2019 voilà. Qui sera donc beaucoup plus simple d'utilisation.
Voilà, plus simple d'utilisation et des modules pour réviser le vocabulaire. On n'en a pas parlé, mais chaque mot de vocabulaire, après, il y a des exercices pour les travailler, les retenir, les apprendre et pouvoir ensuite les réutiliser.
Évidemment. Et qu'on pourra faire dans le bus ou dans le train, justement, dans les
Exactement.
Transports.
Exactement. Ça s'appelle Streamglish. Merci d'être venu nous la présenter. Merci à Sylvain, qui était notre coach aujourd'hui. On se retrouve demain, Benjamin.
À demain.